Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure, ah, vous parlerez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Chef, y a une chauve-souris, elle est géante.
Qu'est-ce que tu me chantes, espèce de crétin? Où ça, une chauve-souris?
Ici.
Batman! Oh, oh. Hey, tirez! Rattrapez-moi ce guignol! Courez! Une prime de $1000 à celui qui mettra le grappin sur ce rat!
Créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger dans la revue Detective Comics, Batman partage avec Superman et Spider-Man le podium des super-héros les plus populaires et mythiques. C'est pourquoi il nous a paru normal de lui consacrer une émission entière réalisée par Christian. Nous raconterons la création de Batman et son évolution au cours des décennies, puis nous recevrons l'un de ses meilleurs dessinateurs, l'américain Scott Hampton, avant de parler de ses apparitions sur les écrans de télévision et de cinéma. Tout de suite, on écoute U2 avec une chanson extraite de la bande originale du film Batman Forever.
Yeah.
Captivant, le magazine de la bande dessinée sur RVE vous raconte ce soir la saga de l'un des plus grands super-héros américains, Batman. Au départ, il y a le succès de Superman dans Action Comics, une revue des éditions National Publications qui deviendront DC Comics. Un succès qui pousse les éditeurs à vouloir créer de nouveaux héros. C'est ainsi qu'en mai 1939, dans le numéro 27 de la revue Detective Comics, The Batman, en deux mots, fait une arrivée fracassante. Le créateur de l'homme chauve-souris se nomme Bob Kane. Il est aidé par le scénariste Bill Finger, qui lui a donné certaines indications sur la forme que doit prendre le personnage. Lui mettre une cagoule plutôt qu'un simple masque, une cape plutôt que des ailes, lui faire porter des gants. C'est aussi Finger qui a trouvé le véritable nom de Batman, Bruce Wayne. Les sources d'inspiration pour la personnalité, le visuel et l'équipement de Batman ont été puisées dans des films tels que Le Signe de Zorro de Douglas Fairbanks, The Bat and Dracula, et dans des personnages comme The Shadow, The Phantom, Sherlock Holmes, Dick Tracy ou le Frelon Vert. Même les dessins des machines volantes de Léonard de Vinci ont été utiles pour la création du personnage. Bob Kane cédera les droits de propriété du personnage en échange d'une petite phrase devant apparaître au début de chaque histoire de Batman, créée par Bob Kane, suivant l'exemple des BD de Superman où apparaît « Créé par Jerry Siegel et Joe Shuster ». Bill Finger n'aura pas la même reconnaissance. Bien qu'il travaille sur d'autres séries DC depuis les années 1940, on sous-estimera sa participation à la création de Batman.
J'étais sûr que j'allais y passer. Et puis il a atterri de nulle part. On m'avait déjà parlé de lui, mais je l'avais jamais vu. Incroyable. Batman a tendu la main et des étincelles sont sorties du bout de ses doigts. Et puis il a visé. Et alors, une sorte de rayon est allé frapper le fourgon. Et ça a fait sauter la porte. Un des deux types est sorti complètement sonné. L'autre avait dû s'enfuir le long des docks.
La première histoire de Batman s'intitule « The Case of the Chemical Syndicate ». Dès le début, on sent l'évolution physique du personnage. En un an, il était complet, mon Batman définitif, déclarera Bob Kane. La ceinture remplie de gadgets est introduite dans Detective Comics numéro 29, suivie par le premier Bat-Vehicle dans le numéro 31. C'est en novembre 1939, dans le numéro 33 de Detective Comics, que l'on apprend les origines de Batman. Bruce Wayne, fils du docteur Thomas Wayne et de Martha Wayne, deux riches bienfaiteurs, est élevé dans le grandiose manoir Wayne et mène une enfance heureuse jusqu'à ses 8 ans, âge auquel il assiste au meurtre de ses parents à la sortie d'un cinéma. Bruce Wayne fait alors le serment de débarrasser la ville de la criminalité. Il commence un entraînement intensif dans tous les domaines, physique et intellectuel, étudie la chimie, la criminologie, la médecine légale, les arts martiaux, la gymnastique, l'art du camouflage. Toutefois, il se rend compte que cela ne suffira pas à mener sa guerre contre le crime. « Les criminels sont superstitieux et lâches », dit Bruce Wayne dans Detective Comics numéro 33. Ainsi, mon costume devra leur inspirer la terreur. Je dois devenir une créature de la nuit, noire, effrayante. Signe du destin, une chauve-souris apparaît à sa fenêtre. Dans Detective Comics numéro 38, Bruce Wayne recueille le jeune orphelin Dick Grayson, qui devient son partenaire Robin. Ce personnage, dont le nom est évidemment inspiré de Robin des Bois, est créé selon l'idée de Bill Finger que Batman avait besoin d'un Dr. Watson qui lui donnerait la réplique. Dans le premier numéro de son comic book, en 1940, Batman tue un personnage en lui tirant dessus. L'éditeur de l'époque décide alors que Batman n'aura plus le droit de tuer ou d'utiliser un fusil. Autre fait marquant du numéro 1 de la revue Batman, l'apparition du Joker et de Catwoman, les deux plus célèbres adversaires du héros. La plupart des ennemis récurrents de Batman sont créés dans les années 1940. Le Joker et Catwoman donc, mais aussi le Pingouin, Double-Face, le Sphinx, le Chapelier Fou, l'Épouvantail et Gueule d'Argile. Tout de suite, on écoute Prince avec une chanson extraite de la bande originale du film Batman de Tim Burton.
Oh, I got a live one here.
Captivant.
Ils sont fous, ces Romains.
Marc Dacier. Notre émission de ce soir est entièrement consacrée au super-héros de Gotham City, Batman.
Lorsque j'ai été élu maire, j'ai promis à mes administrés des logements qui soient à la fois sûrs et bon marché. Et c'est le cas des tours de Gotham City. Votre sécurité a toujours été une de mes grandes préoccupations. Et Gotham City restera, tant que j'en serai le maire, la plus sûre et la plus paisible de toutes les grandes villes.
Attention, vous allez vous faire écraser !
Batman est une des rares séries de super-héros à continuer à être publiée dans les années 1950, alors que le genre est en train de dépérir. Au milieu des années 50, les histoires de Batman prennent un tournant plus science-fiction, à l'instar de Superman. De nouveaux personnages apparaissent, tels que Batwoman, et Batman doit affronter des menaces d'outre-espace. En 1960, il devient membre de la Justice League of America dans The Brave and the Bold, numéro 28. En 1964, les ventes des titres Batman chutent de façon dramatique. Dans Detective Comics numéro 327, Batman est redesigné par le dessinateur Carmine Infantino afin de lui donner un aspect plus contemporain. Les personnages apparus dans les années 50 ainsi que les extraterrestres sont abandonnés. Le majordome de Bruce Wayne, Alfred, est tué et remplacé par la tante Harriet. Le début de la série télévisée en 1966 a une profonde influence sur le personnage. En plus du retour d'Alfred et de l'introduction de Batgirl, le côté kitsch de la série se ressent dans la BD. Lorsque la série télé est arrêtée en 1968, les ventes des comics baissent à nouveau. En 1970, le scénariste Dennis O'Neill et le dessinateur Neil Adams décident de revenir au véritable vengeur nocturne qu'était Batman au départ. Dick Grayson, Robin, retourne à l'université, faisant de Batman un héros solitaire une fois de plus. Le ton général donné par le duo O'Neill-Adams influencera les histoires de Batman à travers les années 1970 et 80. En 1986, la série limitée de Frank Miller, Batman The Dark Knight Returns, racontant l'histoire d'un Batman à la retraite reprenant du service, confirmera le retour du personnage à ses racines les plus sombres. The Dark Knight Returns est un succès commercial et est devenu depuis lors une pierre angulaire de l'histoire des comics. La série a aussi relancé la popularité de Batman. Alan Moore et Brian Bolland continueront dans cette direction en 1988 avec Batman The Killing Joke, dans lequel le Joker kidnappe le commissaire Gordon, le torture et rend infirme sa fille Barbara Gordon. Cette histoire et d'autres du même acabit ont changé l'image des comics en visant un public plus adulte. Dans quelques minutes, nous recevrons Scott Hampton, l'un des dessinateurs qui ont participé à ce virage dans l'histoire de Batman. Mais auparavant, on écoute Seal avec une chanson extraite de la bande originale du film Batman Forever. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high enough. Did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom,
There's so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen?
Positivement différent.
Ce soir dans Captivant, le magazine de la BD, on parle de Batman.
Ça devait être sa station.
Non, Joker, c'est ta station. Et c'est ici que toi, tu descends.
Sauve-moi cette rose, Batman.
Il a toujours réussi ses sorties.
Je reçois le dessinateur américain Scott Hampton. Né en 1959 en Caroline du Nord, il commence sa carrière en 1982 et dessine Batman pour la première fois en 1992 avec l'épisode Night Cries. Trois ans plus tard, il signe une nouvelle aventure du héros, The Sleeping, coma en français. Il retrouve Batman en 2005 avec l'épisode County Line. Scott Hampton, bonsoir. Avant de travailler pour DC Comics, vous avez débuté par des BD d'auteurs. Comment êtes-vous venu au monde des super-héros ?
Basically, an editor, contacted me to do some work on a...
Au départ, un éditeur m'a contacté pour travailler sur un ouvrage intitulé « Le livre de la magie » dont l'auteur était Neil Gaiman. Ils m'ont demandé de réaliser le second livre de cette série. J'ai donc travaillé sur ce livre de la magie. À la même époque, j'ai fait connaissance avec des auteurs de DC Comics. Ça faisait longtemps que je travaillais de mon côté pour des éditeurs indépendants. J'ai réalisé un comic book intitulé Silver Hills pour un éditeur appelé Pacific et des adaptations de nouvelles écrites par Robert E. Howard, le créateur de Conan le Barbare, qui s'intitulait Pages from Hell. C'était de la BD d'horreur. J'ai fait aussi quelques autres BD, donc les gens de DC Comics connaissaient mon travail de réputation. Et lorsque j'ai dessiné le livre de la magie de Neil Gaiman, il est devenu plus facile pour moi de proposer mes services à DC pour toutes sortes de BD, y compris Batman. En ce qui concerne l'album Night Cries, j'avais l'histoire en tête. Je suis allé voir le scénariste Archie Goodwin et je lui ai demandé « Archie, tu ne voudrais pas écrire cette histoire pour moi, développer mon idée ?» Il a répondu « Bien sûr » et c'est comme ça que nous avons commencé.
En short, it has to do with the fact that a serial murderer is found in Gotham and he's going around and...
Le scénario de Night Cries, pour résumer, raconte l'histoire d'une série de meurtres qui ensanglante Gotham City. Batman et le commissaire Gordon pensent tous les deux que ces crimes sont liés au trafic de la drogue. Mais il s'avère bientôt que le coupable de cette série de meurtres est psychologiquement traumatisé par les crimes commis sur les enfants. Et il s'attaque à des adultes coupables de mauvais traitements sur des enfants. C'est ainsi que Batman et le commissaire Gordon se trouvent face à un dilemme. D'un côté, ils sont tentés d'approuver l'action du type, qui peut paraître juste, mais d'un autre côté, leur devoir est de l'arrêter. Dans une histoire de fiction, il faut éviter de donner une réponse simpliste à quelque chose d'aussi difficile, horrible et vrai que les abus commis sur des enfants. On ne peut pas montrer Batman disant disant au type, tu as fait ce qu'il fallait faire, maintenant tu peux filer. C'est plus compliqué que ça. La façon dont nous avons traité ce sujet a impressionné DC et la majeure partie de la critique en Amérique, qui considère notre BD comme un des ouvrages les plus sophistiqués jamais réalisés avec un super-héros.
Après avoir dessiné Night Cries sur un scénario de Goodwin, vous avez écrit vous-même une autre des histoires de Batman que vous avez dessinée, Sleeping. Coma en français.
En
étant le seul responsable de la réalisation d'une BD, j'évite une inquiétude que quelqu'un massacre mon travail. Aux États-Unis, le travail de la BD se fait en équipe. Un type écrit l'histoire, un autre type la crayonne, un autre l'encre, un autre type encore va réaliser la mise en couleur. Être le seul auteur est définitivement la façon de faire que je préfère.
Le personnage de Batman s'inscrit dans une très longue tradition. Comment avez-vous vécu votre entrée dans cette histoire mythique ?
C'est un vrai honneur et une joie de travailler sur un personnage qui fait partie de mon enfance. J'ai grandi en lisant les aventures de Batman. Et c'était un rêve pour moi, comme pour beaucoup de jeunes, de travailler un jour sur ce personnage. C'est une chose très positive dont je peux parler à propos de ces personnages qui appartiennent aux compagnies d'édition, c'est que lorsque leur créateur arrête de les dessiner, ces personnages ne sont pas obligés de s'arrêter, de mourir.
Et
c'est amusant de pouvoir s'inscrire dans une lignée d'artistes. Or, de très grands auteurs ont dessiné Batman, Neil Adams, Frank Miller et de nombreux autres. C'est excitant pour moi de m'emparer à mon tour de ce personnage. Batman est connu de tous, avec ses caractéristiques générales, son look bien défini. Mais chaque artiste qui joue avec lui ajoute des éléments nouveaux ou différents. Et c'est amusant pour moi d'apporter à Batman ma propre touche.
Scott Hampton, merci.
To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed.
Roger, ready to move out.
Impossible de conclure cette émission entièrement consacrée à Batman sans évoquer les apparitions à l'écran du super-héros. Nous venons d'entendre la célèbre chanson de la kitschissime série télévisée des années 60, une série très populaire en 120 épisodes de 25 minutes, diffusée entre le 12 janvier 1966 et le 14 mars 1968 sur le réseau ABC. Batman y était interprété par l'acteur Adam West. Il faut ensuite attendre 1992 pour revoir Batman sur un écran de télévision avec une excellente série en dessin animé lancée sur le réseau Fox et intitulée Batman The Animated Series. En voici le générique. Le générique de Batman The Animated Series reprend le thème musical composé par Danny Elfman pour les films de Tim Burton. sorti en 1989 sur les écrans de cinéma, le premier film de Batman remporte un énorme succès. L'acteur que le réalisateur Tim Burton a choisi pour jouer le rôle de Bruce Wayne Batman, Michael Keaton, étant peu connu du grand public, c'est le nom de l'interprète du Joker qui se trouve en haut de l'affiche. Jack Nicholson fait l'une de ses compositions les plus mémorables. Venant renforcer le casting, la belle Kim Basinger incarne la journaliste Vicki Vale, dont Bruce Wayne est amoureux. Le second Batman de Tim Burton, sorti en 1992, est encore plus réussi que le premier. Dans le rôle de Catwoman, Michelle Pfeiffer marque les mémoires, tandis que Danny DeVito campe un pingouin pathétique et effrayant. Joel Schumacher, réalisateur de Batman Forever en 1995 et de Batman et Robin en 1997, s'éloigne de l'esthétique sombre et de la poésie gothique de Tim Burton. Le principal intérêt des deux films de Schumacher réside dans leur casting. Val Kilmer puis George Clooney reprennent le rôle de Batman. Chris O'Donnell est Robin, Nicole Kidman interprète Chase Meridian et Alicia Silverstone incarne Batgirl. Dans les rôles des méchants, uniquement des stars. Jim Carrey, l'homme mystère, Tommy Lee Jones, double face, Uma Thurman, Poison Ivy et Arnold Schwarzenegger, assez grotesque en Mr. Freeze. Batman et Robin déplaît aux fans. Le film sacrifie à une esthétique d'inspiration gay. Joel Schumacher ne cache pas son homosexualité, ce qui va à l'encontre de l'esprit de la bande dessinée. Batman ne sera de retour sur les écrans qu'après 8 ans de réflexion. En 2005, le réalisateur Christopher Nolan revient aux sources du personnage, comme Frank Miller et David Mazzucchelli l'ont fait dans la BD avec Batman Year One. Dans le film Batman Begins, le héros est interprété par Christian Bale, secondé par l'excellent Michael Caine dans le rôle d'Alfred. Encore plus sombre et violent, le second Batman de Nolan, intitulé The Dark Knight, sort en 2008. Batman, toujours interprété par Christian Bale, y affronte un nouveau Joker particulièrement terrifiant, incarné par le regretté Heath Ledger. C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant réalisé par Christian. Bonsoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.
Bonsoir, Alfred.
Monsieur, dois-je penser que cette petite chose est un farfadet ?
Non, Alfred, c'est notre invité. Je voudrais que vous vous occupiez de lui.
Moi ? Mais je n'ai pas l'habitude des enfants.
Vous serez parfait. Nourrissez-le, lavez-le et faites-le dormir.
Oui, pourquoi pas. Mais pas dans cet ordre-là.